Mon travail ne se fabrique pas à partir de la matière même en la pétrissant, la façonnant et y dégageant peu à peu des formes. Il consiste au contraire à suivre la matière, à l'écouter, à chercher à comprendre ce qui s'y passe. Et surtout pas à lui imposer une forme qui ne lui appartient pas et qui n'est pas déjà en elle. Je ne dis pas que c'est la seule manière de faire, mais c'est la seule qui m'intéresse. J'utilise donc la matière pour ce qu'elle est, pour ses caractéristiques propres, le bois, le métal, la pierre, la terre, les feuilles, et j'essaie de comprendre par le dedans comment elle fonctionne. Giuseppe Pennone est ce soir notre invité à l'occasion de cette exposition qui vient de commencer à la Bibliothèque nationale de France, Sève et Pensée. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et pour être en accord et en harmonie avec vous, Giuseppe Pennone, nous avons choisi Neil Young, Natural Beauty. Dans le petit village où vous êtes né, Giuseppe Pennone, il y avait une forêt, pas très loin. Vous y alliez souvent ?
Ben, c'est pas vraiment une forêt, dans le sens que peut-être il peut y avoir en France où il y a des grandes extensions de bois. C'est plutôt, comme c'est un territoire de montagne, c'est des bois, des forêts, surtout de châtaigniers, et aussi d'autres arbres, mais c'est lié une grande partie à la cultivation et à la nourriture et à l'économie agricole, le bois. Et moi, j'ai mon enfance, mon adolescence, je l'ai vécu dans ce village, en rapport, en contact avec, avec le fleuve, avec le bois, avec ces éléments qui étaient quelque chose qui m'intéressait beaucoup comme, comme perception de la réalité. Et je dirais que l'autre grand intérêt que j'avais, c'était le dessin, la sculpture. Alors je me suis formé sur cette base, en lien avec la nature d'un côté et avec la matière de l'autre côté.
Les arbres, vous leur parliez ?
Non, mais non, je parlais pas aux arbres, mais je vivais leur présence comme une présence d'un autre être vivant qui était, qui pouvait être comme un corps vivant qui pouvait être paragoné à mon corps, à mon existence.
Plus tard, vous allez utiliser dans vos registres artistiques beaucoup les troncs d'arbres, les branches d'arbres, le bois que vous allez évider. Et vous allez toujours travailler à partir de bois qui sont morts. Vous n'allez jamais prendre pour votre démarche artistique un arbre vivant.
Oui, j'ai essayé toujours d'utiliser des arbres qui étaient déjà coupés ou morts. Ça, c'est quelquefois, il y avait des arbres qui devaient être coupés pour des raisons pratiques et ou parce qu'elles étaient trop près d'une maison ou parce qu'elles étaient dans un chemin qui devait s'agrandir, pour des raisons comme ça. Mais mon intérêt à l'arbre, c'est à partir des premières œuvres que j'ai faites dans les années, fin des années 60, 68 exactement, où j'ai le travail peut-être plus emblématique, plus exemplaire, c'est quand j'ai mis une main en acier sur le tronc d'un arbre. L'idée, c'était celle de... j'avais pas la force ni le temps de la vie de l'homme, c'est très différent du temps de la vie de l'arbre, et de tenir l'arbre dans ma main et dans le temps de sa croissance. Alors l'acier était la substitution de ma main. Et dans une idée d'un rapport physique avec l'arbre, qui était pour moi une matière de sculpture. Dans ce cas, c'était l'arbre même qui créait l'empreinte. C'était pas comme dans la terre glaise où on peut laisser l'empreinte directe, mais c'était une empreinte qui se réalisait dans le temps avec en suivant la vie et l'évolution de la croissance de l'arbre.
Autrefois, les amoureux dessinaient des cœurs et mettaient leurs prénoms sur le tronc des arbres. Mais vous, Giuseppe Pennone,
vous avez accompagné
la croissance des arbres, parce que mettre ses mains d'acier sur le tronc, c'est aussi nous permettre de savoir comment l'arbre grandit. Nous ne pensons que rarement au fait que les arbres grandissent vers le ciel, jusqu'en haut du ciel peut-être.
Oui, mais ce que vous dites, les noms des amoureux sur les arbres, au bout d'un moment, quand l'arbre est grandi, il devient plus large. C'est comme une projection, c'est comme la projection d'une lumière dans l'espace. Ça m'a toujours intéressé, cet aspect de dilatation du corps de l'arbre. Et c'est vrai que c'est dans la sculpture, dans le sens de sculpture, et c'était ce que je voulais faire, et je devais prendre en compte le temps de croissance de l'arbre. Alors c'était une sculpture qui se réalisait avec la vie, avec le temps de croissance de l'arbre.
Vos grands-parents étaient paysans, vos parents étaient plutôt commerçants, vous êtes cependant resté dans cette terre natale, immergé au milieu de la nature. Je crois que tout petit, vous saviez dessiner comme un don, une vocation.
Oui, j'aimais dessiner et j'étais et ma mère, elle m'encourageait dans ça parce que son père était sculpteur et il a, sans pouvoir vivre de son de travail de sculpteur, mais et alors il y avait cette elle, pour elle c'était une probablement une façon de voir son père ou de créer un lien avec la vie de son père.
Ce qui est extraordinaire dans votre art, Giuseppe Pennon, outre qu'il nous touche au plus profond de nous-mêmes, et ce, quel que soit notre âge, notre culture, notre civilisation, c'est aussi que vous êtes un autodidacte et que vous partez de votre propre corps. Comment avez-vous considéré l'art comme pratique expérimentale et pouvez-vous nous raconter comment vous êtes entré en art?
Moi, j'ai fait. Mon intérêt était l'art, était la sculpture, la peinture, le dessin. Mais j'ai fait une école économique, de comptable.
Rien à voir avec l'art, en apparence.
Rien à voir avec l'art. Mais en même temps, c'était une école que je trouve qui m'a appris un petit peu de langue. Et il y avait des concepts qui étaient d'économie, mais qui sont propres aussi de la philosophie. Et il y avait des aspects intéressants, peut-être plus vaste que dans une école d'art simplement où l'apprentissage aurait été seulement sur la pratique du travail physique. Alors quand j'ai terminé cette école, je me suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts à Turin, mais je n'ai pas retrouvé ce qui était ce que je m'attendais. Et après un an de réflexion, j'ai commencé à essayer de trouver mon propre chemin. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec les éléments que je connaissais mieux.
C'est-à-dire vous-même, votre propre corps.
Oui, ça c'était aussi parce que dans ces années-là, je crois, c'était quelque chose on pouvait le sentir, même si on n'était pas très conscient de ça. Mais c'était un moment où on mettait en cause les conventions. Et on mettait aussi en cause les conventions de l'art. Alors, le fait de réduire la pratique de la sculpture au fait de toucher une matière, c'était comme une radicalisation de l'approche à l'art.
Montrez-moi vos mains. Elles sont belles, vos mains.
Oui, mais c'est pas très c'est pas des mains qu'ils ont travaillé dans le sens.
Ah, c'est pas des mains de paysans, c'est plutôt des mains d'artistes.
Exact, oui.
Non, mais si je vous demande de montrer vos mains, c'est parce que nous les avons vues agrandies et nous avons pu découvrir Giuseppe Pennon grâce à la pression que vous avez exercée grâce à vos mains, grâce à chaque doigt que vous avez compressé sur des surfaces vitrées pour nous faire découvrir ce que ça veut dire d'avoir des mains, tout simplement.
Ben là, peut-être la référence est aux photos où il y a la main qui se déplace. C'était l'idée de couvrir, de toucher toute la surface, dans ce cas c'était un morceau de verre, mais qui avait une fois la photo. Et alors, toute une suite de photos pour chaque contact de doigt et pour couvrir toute la surface du verre avec les empreintes digitales. Et c'est quelque chose que j'ai repris pour les tableaux qui sont dans l'exposition, qui sont faits à partir de Livo Grasso de Wittmann. Et j'ai pensé que ça pouvait créer un lien, cette œuvre du 72, je pense, au 61. Ça pouvait créer un lien avec ces œuvres que j'étais en train de faire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est très actuel, parce qu'on touche l'écran du téléphone sans cesse, et c'est un peu aussi ça, une lecture tactile d'une surface.
Vous cartographiez le monde avec justement cette tactilité. Nous utilisons nos mains absolument tout le temps, nous ne nous apercevons même pas que nous les utilisons. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est la trace que les mains ont laissé sur tous les objets que nous touchons, que ça soit une banquette dans un café, que ça soit un écran d'ordinateur, que ça soit une vitre que nous allons pousser pour rentrer dans un lieu, etc., etc. Et vous dites que il y a une mémoire de cette tactilité.
Il y a mémoire de cette tactilité, mais il y a aussi, du moment que vous touchez quelque chose, le rapport entre la chose que vous touchez et vous-même, il y a une confusion. Il y a comme une compénétration du corps avec la matière qu'on touche. Et il n'y a pas la vie, et c'est quelque chose qui est animal. Ce n'est pas un geste qui est fait avec avec une intention. Souvent, c'est une automatique, ce geste. Et mais il y a une production d'images. Il y a une production d'images que du moment qu'ils sont révélés, ils peuvent devenir quelque chose d'extraordinaire comme image.
Giuseppe Pennone, vous êtes avec moi dans un studio, je vois vos yeux, vous avez des lunettes, oui. Mais à un moment, vous avez eu un temps sans lunettes.
Oui, et quand vous êtes... encore les enlever. Hein, c'est vrai.
Alors, vous les enlevez, je vois mieux vos yeux, mais je n'imagine pas quel type d'expérience vous avez vécu quand vous êtes rentré comme artiste corporel, on dirait aujourd'hui, on parle des mains et de la pression des mains sur les surfaces que nous touchons toute la journée et toutes les nuits. Mais l'expérience que vous avez menée en vous mettant des...
Là, en contact miroir sur les yeux, c'est ça.
Alors, expliquez oui. Ce que vous avez fait de vos yeux et de votre propre regard et de ce décentrement.
Mais c'était toujours une réflexion sur la sculpture. C'était l'idée de délimiter le corps comme objet de sculpture, que le corps devienne objet de sculpture. Alors, dès qu'on a les yeux ouverts, l'extension de notre corps, c'est jusqu'où arrive le regard. Et au contraire, avec les yeux fermés, il y a une définition. Et pour rendre ça comme idée et comme image, je pensais que seulement une photo, par exemple, des yeux fermés, il n'aurait pas pu dire ça. Et je pensais au contraire que si j'arrivais à créer une lente contact miroir posé sur l'œil, j'aurais réfléchi ce que j'aurais dû voir et la définition du corps aurait été plus fort comme image. Comme intention. Et c'est à partir de cette idée que j'ai fait la pièce. Après, comme toujours, on fait une œuvre, et après, l'œuvre elle-même, elle prend des significations, elle a une vie autonome presque de l'intention.
C'est-à-dire, si je vous comprends bien, Giuseppe Pennone, vous avez provoqué en vous une cécité volontaire, mais en même temps, les gens qui pouvaient vous voir voyaient ce que vous auriez dû voir.
Exactement. C'est exactement ce que je voulais faire.
Mais est-ce que c'est pas ça votre définition d'être artiste justement?
D'être artiste, c'est tous les gens qui travaillent avec les images, ils renvoient des choses qu'ils ont vues et qu'ils ont appropriées. Et alors le fait de l'encontre miroir, c'était immédiat. Le renvoi de l'image était immédiat.
Je vous propose d'écouter la voix de Yves Klein qui va nous expliquer comment il voyait la nature comme une concurrente dans son travail. C'est une archivina du 4 janvier 1962.
Je suis jaloux de la nature. J'aime pas la rencontrer dans mon travail. Si par hasard une de mes œuvres ressemble à la nature ou même à la société, à la ville qui est dans le fond aujourd'hui la nature aussi, eh bien, ça m'ennuie terriblement. Je la considère, la nature tout entière, comme une concurrente, un concurrent, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que je suis son ennemi, dans le fond. Non, éventuellement, je m'en sers, je la prendrai volontiers comme esclave pour la faire travailler pour moi.
Nous venons d'entendre des propos de Yves Klein, propos qui sont peut-être à l'emporte-pièce, mais propos qui contredisent complètement la nature de votre travail, Giuseppe Pennone.
Je ne suis pas tellement sûr, parce qu'à mon avis, le fait de... À propos d'Yves Klein, c'était aussi de travailler avec la nature. C'était la nature qui travaillait pour lui. Quand il a mis son tableau sur la toiture de la voiture, après il l'a roulé jusqu'à, je ne sais plus si c'est de Paris à Nice. C'était une façon de créer l'œuvre en lien avec les éléments de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Il y a deux artistes qui ont été importants pour moi. Un, c'était Yves Klein, l'autre, c'était Manzoni. C'était deux artistes dans lesquels on retrouvait des éléments, je retrouvais des éléments qui pouvaient nourrir ma réflexion sur l'art.
Alors, votre réflexion sur l'art, elle s'est nourrie effectivement de pratiques artistiques antérieures, mais cependant, Giuseppe Pennone, vous avez inventé des manières de travailler en harmonie ou en complémentarité avec la nature, contrairement à ce que peut-être a dit de manière un peu ironique Yves Klein tout à l'heure en disant que la nature était son esclave. Vous, c'est, je crois, exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est pas du tout une domestication de la nature que vous cherchez, mais c'est plutôt, j'allais dire, une infiltration, une compréhension au plus intime. Est-ce que, quand vous allez chercher des grandes toiles blanches et que vous allez en forêt imprégner ces toiles blanches du tronc des arbres pour pouvoir ensuite essayer de déposer sur cette toile le chlorophylle qui vient des arbres, est-ce que c'est une manière, entre guillemets, de parler aux arbres ou de les considérer comme des êtres pleinement vivants ?
Ben, c'est ça, mais c'est aussi le fait que toucher directement une réalité, le tronc, c'est comme le corps d'un arbre, et en même temps révéler sa forme. Et ça, c'est quelque chose qui est possible avec le frottage. Moi, je l'ai fait avec les feuilles, surtout des feuilles de sureau, parce que c'était la matière même du bois. Alors, c'est assez impressionnant pour moi le fait avec le frottage, d'avoir l'image du bois, de révéler quelque chose qui est bidimensionnel et de l'ordre de la vue, mais qui est créé par le toucher, par la...
Oui, l'action de l'artiste est, entre guillemets, indirecte.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas votre main qui esquissait les contours qui vont être déposés sur l'espace de la toile.
Ben non,
c'est l'arbre lui-même au fond.
C'est l'arbre lui-même, mais ce qui arrive, c'est que l'œil, après le regard, il va créer la profondeur à l'intérieur de la toile, chose qui au contraire dans l'action est bidimensionnelle seulement, c'est pas tridimensionnel, il n'y a pas cette idée de profondeur.
Donc le dépôt de chlorophylle sur l'espace de la toile, c'est cependant vous qui allez l'harmoniser, l'agencer.
Oui, je choisis aussi les différents arbres dans le frottage, mais c'est quelque chose qui apparaît et c'est un peu comme arriver à recréer l'image du bois avec la matière même du bois, dans ce cas le chlorophylle des feuilles.
C'est un peu magique, on se demande si les divinités peut-être faisaient ça dans les temps mythologiques. Descendaient dans les forêts et allaient chercher leur dépôt de chlorophylle.
Mais je pense que tous les mythes ont une base qui est réelle, et c'est une observation de la nature qui a créé la perception et la sensibilité créer l'histoire du mythe. Par exemple, si on pense à Daphné et Apollo, il y a le fait que Daphné est transformée en laurier pour échapper à Apollon. Mais si on touche une feuille de laurier, il y a un parfum qui se dégage. Et ce parfum, c'est une défense de l'arbre. vis-à-vis de l'animal ou de l'insecte. C'est pour ça aussi qu'il est présent dans les, beaucoup dans les jardins anciens, le laurier. C'était à cause de qu'il repoussait les moustiques. Alors il y a, à mon avis, une compréhension de la réalité qui est tramandée après avec la narration du mythe.
Je me souviens, Giuseppe Pennone, il y a plus de 20 ans, c'était au cours d'un festival d'Avignon qui célébrait la beauté sous toutes ses formes, que vous aviez à l'intérieur du palais des papes d'Avignon installé une véritable chambre de laurier.
Oui.
Refuge des amoureux pour qu'ils soient tranquilles, loin des moustiques, pour continuer à s'aimer.
Non, c'était l'idée de... Moi, j'avais fait, dans le 78, une œuvre qui était Le Souffle. C'était comme un grand amphore en terre cuite, avec l'empreinte du corps. Alors, il y avait d'un côté l'empreinte du corps, de l'autre côté, il y avait la forme du vase. Et il y avait... c'était sur cette idée d'image anthropomorphe que j'avais bâti l'œuvre. Mais j'avais pas fait le travail inverse, c'était d'introduire l'air dans le corps. Et avec l'œuvre Respirer l'ombre d'Avignon, j'ai fait cette action. On respirait le parfum des feuilles de laurier.
Ça s'appelait Respirer l'ombre. Parce que vous êtes aussi poète. Et philosophe.
Non, pas poète philosophe. Moi, j'ai écrit des mots pour me souvenir les choses, surtout. Et c'est une façon de mémoriser et de éclaircir les idées en fonction de l'œuvre.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Giuseppe Pennone, Beethoven, la sonate pour pianoforte en ré mineur, La Tempête, interprétée et dirigée par Barenboim.
Thank you.
Merci de ce moment de bonheur grâce à cette écoute de Beethoven. Pourquoi ce choix, Giuseppe Pennone?
C'est parce que c'est un choix. Le choix, c'est à cause de l'émotion qu'on peut avoir en écoutant cette musique, que c'est une émotion qu'on peut avoir un paragon avec l'émotion de la vision de la nature et de ces phénomènes. C'est quelque chose qui me relie dans l'imagination au paysage et aux événements de la nature.
Peut-on dire que vous êtes sculpteur, peintre, performeur et poète, Giuseppe Pennone?
Ça serait suffisant, sculpteur.
Sculpteur d'abord.
D'abord, oui.
Sculpteur du vivant, sculpteur de l'intensité du vivant.
C'est une façon,
agent double.
C'est une façon de comprendre la réalité, de comprendre ce qui nous entoure au-delà des conventions. Parce que le regard est basé sur la convention du voir. Au contraire, la sculpture, il y a un rapport direct avec la matière, avec les objets. Et ça, c'est quelque chose qui aide à avoir un regard critique vis-à-vis de ce que vous entoure.
Alors vous avez inventé une forme de sculpture. Je vous propose d'écouter Alberto Giacometti, qui va s'exprimer à propos de la sculpture et le vivant. C'est une archivina du 19 septembre 1953.
Il faut dire dans tout cela que je crois que pour sculpture, pour la peinture, n'importe quoi, en fait, il n'y a que le dessin qui compte. Hein? Qu'il faut s'accrocher exclusivement, uniquement au dessin. Et que si on dominait un peu cela, tout le reste serait possible.
Eh bien, alors, là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. C'est pas? Que le reste, la tête qui se transformait en crâne, devenait à peu près l'équivalent du crâne du mort. Mais ce qui faisait la différence entre le mort et la personne, c'était son regard. Et alors, je me suis demandé, et j'ai pensé depuis, si au fond, il n'y a pas d'intérêt de sculpter un crâne, un mort. On a la volonté de sculpter un vivant. Dans le vivant, il n'y a pas de doute que ce qui fait vivant, c'est son regard. C'est comme si c'est ça qu'on voulait sculpter, c'est pas? Et c'est là où je reviens aux Hébraïtes et au Laocoon. La sculpture des Hébraïtes est vraie, mais tous comme vraie, parce qu'elle a un regard.
Et la sculpture grecque n'en a pas.
Ça n'est pas l'imitation d'un œil, mais là, bel et bien le regard. Et je ne vois que le regard. Tout le reste, c'est un support du regard. Par contre, la sculpture grecque n'a pas de regard. C'est le cadavre que j'analyse et je regarde. Et alors là, il arrive une chose étrange. C'est par exemple, dans la sculpture égyptienne, qui m'a toujours beaucoup troublé, attiré, il y a le scribe, qui est peint, bien entendu, et on a reproduit les yeux en verre ou avec des pierres. On a imité au plus près possible l'œil même.
Nous venons d'entendre la voix de Giacometti à propos de sa définition de la sculpture. Alors s'il y a un artiste qui a essayé de déployer toutes les représentations de la figure des hommes, de ce que représente l'homme, c'est bien Giacometti. Et moi je me suis demandé, en voyant votre travail, Giuseppe Pennone, si vous n'étiez pas finalement le continuateur, par d'autres manières, d'Alberto Giacometti en sculptant le vivant de la nature.
Mais en pensant à Giacometti, je me souviens d'une définition que Ponge a donnée de Giacometti. Il, dans les rares écrits qu'il a fait sur des artistes, il a paragonné Giacometti au bâton des pasteurs. Et c'est quelque chose de très juste, parce que Giacometti, c'est un homme de montagne, c'est qui est en lien avec l'idée de la pastorizia, et les figures.
De la transhumance.
Oui, transhumance, du bâton qui sert, et aussi du bâton qui était sculpté par les
bergers eux-mêmes.
Oui. Alors, il y a un lien très, très fort, à mon avis.
Il est montagnard comme vous, Giacometti, d'ailleurs.
Oui, c'est montagnard. Et Ponge a remarqué cet aspect, qui est un aspect qui est marginal, évidemment, mais en même temps, il y a peut-être un fond de vérité. Pour moi, l'idée, c'était celui de retrouver la forme de l'arbre, par exemple, dans le bois même, dans la matière même, en suivant les anneaux de croissance de l'arbre, et dans l'idée que chaque arbre est magnifique en lui-même, parce qu'il mémorise son existence, et chaque moment de son existence est figé dans sa matière. Et alors, c'est une sculpture extraordinaire, parce qu'elle a la nécessité de la vie de l'arbre spécifique. Alors c'est comme si un sculpteur arrive à faire une sculpture qui a la nécessité profonde de son existence. C'est ça qui m'a intéressé toujours dans l'arbre, et c'est pour ça que j'aime les arbres, mais aussi je trouve que on peut se créer un parallèle et une équivalence entre mon corps et le corps de l'arbre.
Autrefois, il y avait des sourciers qui, avec des bâtons, justement, essayaient de trouver les sources cachées dans la terre, au plus profond. Et on a l'impression que peut-être votre démarche, Giuseppe Pennone, s'apparente à ces sourciers. C'est-à-dire que dans toute une série d'œuvres que vous continuez à faire encore aujourd'hui, en évidant le corps, le tronc des arbres, vous êtes peut-être à la recherche de la vérité de l'arbre.
Ben, la vérité de l'arbre, c'est dans sa forme, c'est dans son existence. Et c'est la nécessité de l'arbre est notre nécessité. On est en symbiose avec, pas seulement avec les arbres, avec tout ce qui nous entoure, avec les pierres. Tout fait partie de nous et on est en train de devenir aussi la matière qui nous entoure. Alors cette équivalence, c'est une idée de où il n'y a pas une figure qui est dominante sur les autres éléments, mais il y a une réalité paritaire entre les différents éléments, et nous, on est nature comme les arbres sont nature, comme les pierres sont nature, comme les eaux sont nature. Alors, sur un certain point de vue, c'est cet aspect-là qui m'intéresse, et c'est pour ça que je dis que j'essaie de suivre la matière même pour révéler les formes que nous voyons dans la matière.
Alors parlons des pierres, Giuseppe Pennone, parce qu'il n'y a pas que les arbres dans votre œuvre, il y a aussi les pierres.
Il y a aussi les pierres.
Il y a les feuilles de sureau, il y a toute une sorte de registre tactile que vous allez déployer au long de votre travail, mais ces pierres. Il y a des pierres dans les rivières. Nous avons tous été à la recherche des beaux galets polis par justement l'usure de l'eau sur les pierres. Mais vous avez, alors je ne sais pas si ça veut dire imiter la nature, respecter la nature ou admirer la nature, mais vous êtes inspiré du travail de la nature sur des pierres dans une rivière pour essayer d'imiter l'usure de l'eau en refaisant des pierres et en les remettant dans la rivière.
Oui, j'ai fait un travail qui est né comme l'origine de cette œuvre. C'est le fait que j'étais en train de travailler sur une pièce qui n'avait rien à voir avec une forme naturelle, mais j'étais en train de travailler la pierre. Et je me suis rendu compte, comme toutes les actions que j'étais en train de faire, c'était quelque chose qui arrive à une pierre qui est dans le fleuve, parce qu'il y avait deux coups, il y avait des frottements, tout un ensemble de gestes et d'outils aussi qu'on utilisait qui avaient un lien profond avec la rivière. Alors, dans mon excitation de faire une sculpture parfaite, je suis allé dans la rivière, et dans une rivière, j'ai pris un gros galet, et je remontais la rivière jusqu'où il y avait une carrière d'où arrivait la même matière, et j'ai refait la forme du galet de la rivière. Et avec cette action, je devenais comme le fleuve qui avait travaillé la pierre. Et le titre de l'œuvre, c'était SRFU, être fleuve.
Mais si tout est dans la nature, alors pourquoi être artiste? Est-ce que vous êtes un imitateur de la nature ou est-ce que vous êtes penseur de la nature?
Non, c'est tout est dans la nature, mais il faut la comprendre. C'est l'action, l'intérêt de l'art, c'est ça, c'est l'émotion vis-à-vis de la nature.
Mais il faut effacer soi-même sa propre individualité et tout en restant humain et en étant à l'écoute, alors, par tous les sens.
Non, c'est pas qu'on efface sa propre identité. On garde sa propre identité qui va s'intégrer avec les identités qu'il y a dans la nature.
Et vous, dans la nature, vous êtes qui et quoi?
Oh, je suis tous les éléments qu'on peut imaginer, parce que c'est notre destin, c'est de devenir ça.
Alors, vous êtes inscrit au début de votre itinéraire artistique, Giuseppe Pennone, à l'intérieur d'un mouvement où on vous a peut-être un peu trop encagé, qui s'appelait l'Arte Povera, mais vous n'avez jamais failli à votre déontologie de départ, c'est-à-dire n'utiliser que des matériaux pauvres et qui sont proches de nous pour pouvoir faire matière, si vous voulez dire quelque chose. Un peu de marbre.
Non, c'est du bronze. Non, c'est pas forcément de l'idée. Cette définition, c'était en partie une définition des matériaux que l'artiste utilisait, mais c'était aussi pour indiquer un ensemble d'actions et de qui pouvaient être faites par l'artiste, qui n'étaient pas les actions traditionnelles de l'expression traditionnelle. Alors le fait de travailler, par exemple, sur des éléments du bois et de la nature était quelque chose qui était pas dans la convention de l'art. Et ça, c'était dans le propos de Germano qui avait écrit ce mot sur la définition, de Germano Cella qui avait écrit la définition arte povera, c'était pour indiquer le changement qu'ils étaient en train de faire les artistes en s'appropriant des matériaux et aussi des façons de travailler qui n'étaient pas habituelles à l'art.
Aujourd'hui, votre œuvre est montrée dans le monde entier, elle est dans tous les musées, elle est aussi dans des musées plus que prestigieux qui ont vu le berceau de la naissance de l'art. Et je veux parler, là en ce moment elle était à la Bibliothèque Nationale de France, mais partout tous les grands musées du monde vous veulent. Et très récemment, vous étiez au vous faites la moue, mais c'est vrai. Vous êtes modeste, mais c'est vrai. Quelle a été votre expérience, Giuseppe Pennone, au moment où vous avez inscrit votre œuvre à l'intérieur du musée des Offices à Florence? C'était très récemment.
Oui, c'était il y a quelques mois. La chose pour moi extraordinaire, c'est que quand on m'a proposé de faire ça, c'était de pouvoir voir mon œuvre à côté des œuvres extraordinaires qui sont conservées dans ce musée. Et j'étais surpris qu'on m'a donné un espace qui est entre la salle de Léonard de Vinci et la salle de Raphaël et Michel-Ange.
Raphaël de Vinci, qui est une de vos idoles.
Oui, c'est parce qu'il avait une vision de la nature qui n'était pas. Qui était une recherche, un essai de comprendre la nature. Ce qui est témoigné par tous ses dessins, toute sa recherche dans tous les domaines scientifiques.
Et donc, à Florence, vous n'étiez pas intimidé par vos camarades du passé?
Ben, vous savez, l'art, c'est pas un match de football où il y a quelqu'un qui, c'est toujours possible d'installer quelque chose à côté de choses extraordinaires et c'est la chose faible qui va s'approprier de la grandeur des autres choses.
Alors, il y a un côté chez vous que vous récusez philosophique, poétique, mais aussi politique. Et puis, il y a toute une réflexion sur ce que ça veut dire voir et regarder. Je vais lire un court texte de vous qui est dans le catalogue de la BNF à l'occasion de cette nouvelle exposition en France. Je vous cite. « Ce matin au bar, les conversations se déroulent entre deux hommes qui prennent un café au comptoir d'un bar parisien. » D'une quarantaine d'années, l'un explique à l'autre l'utilisation du téléphone portable qui, selon lui, peut répondre à des commandes vocales. Je ne prête pas beaucoup d'attention au sujet, même si celui qui parle se veut convaincant et insiste sur les prouesses et le coût réduit de ces nouveaux appareils et réagit avec fougue aux questions et aux commentaires plutôt sceptiques de son interlocuteur. Ils paient tous les deux les cafés et l'un des deux s'en va. C'est alors seulement que je remarque que son interlocuteur est aveugle. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui s'adresse au barman et lui demande « De quelle couleur était l'homme qui me parlait un peu plus tôt ?»« Bronzé, » répond le barman. « Mais très bronzé ? » ?»« Non, pas beaucoup. » »« Et vous, vous êtes bronzé ?» Non, moi je suis roux. Et moi je suis comment ? Bronzé vous aussi. Très bronzé ? Non, à peine bronzé, assez clair. J'ai quitté le bar sans écouter la suite de la conversation, mais en réfléchissant à la conception que peut avoir des couleurs un aveugle qui ignore la couleur de sa peau et à l'idée qu'il peut se faire de la peinture. Pas mal.
C'est en effet c'est quelque chose qui
c'est vertigineux
qui vous est arrivé vraiment. Il m'est arrivé vraiment. Après, il y avait cette conversation qui était aussi un peu gênante pour moi parce que c'était sur la couleur des personnes qui, en même temps, c'était quelque chose qui m'a fait réfléchir. Et souvent dans la vie quotidienne, on voit il y a des éléments, des choses qui peuvent nous faire réagir aussi dans un sens plus profond et plus vaste.
Je ne sais si vous naviguez dans le monde avec les yeux fermés, mais ce que je sais, c'est que vous marchez beaucoup et que vous avez écrit des poèmes sur ces marches qui se font sur les chemins forestiers, mais pas seulement. Et que vous avez pour ambition non seulement de ramasser les feuilles, de vous couvrir de feuilles, mais aussi de poussière. Comment on fait pour prendre sur soi la poussière, Giuseppe Pennone ?
La poussière, on la prend en marchant dans... Quand on est dehors, c'est quelque chose qui est persistant. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans du champ, dans l'élevage de poussière du champ, mais qui en effet, c'est vrai, ils le savent très bien, tous les dames qui font le ménage, qui doivent nettoyer chaque jour les chambres, les escaliers, les rues aussi. C'est quelque chose qui est présent et qui devient matière de peinture, qui peut être matière de peinture, parce que elle couvre les éléments. Alors, il y a l'étymologie du mot couleur, c'est couvrir. On couvre avec une matière, une surface. Et de là, on peut dire que la poussière est couleur et peinture.
Merci infiniment, Giuseppe Pennone. Je rappelle que cette exposition à la Bibliothèque nationale de France vient de commencer, qu'elle va durer jusqu'au 23 janvier et qu'elle s'intitule « Sève et pensée ». Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. percevoir au loin de danser. Nancy, c'est là, sinon, Nancy, Nancy, seul, silence, sinon, Nancy, tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris, comme dit Rimbaud, à peu près. L'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, belle Arthur, le supplice est sûr. Nancy s'en est allée. Au loin de danser. Silence, sinon, Nancy. Nancy, c'est silence. Silence, sinon, Nancy.